Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. C'est l'Avent, et pendant l'Avent, vous le savez, Vivre Ensemble vous invite à découvrir des associations de lutte contre la pauvreté, à les soutenir également. Et donc aujourd'hui, on vous invite à en découvrir deux, parmi les 88 qui sont soutenues cette année durant cette campagne d'Avent. Alors, nos deux associations du jour sont bruxelloises. Nous avons tout d'abord l'Amorce avec Miguel Castillo. Bonjour Miguel.
Bonjour.
Et ensuite les Amis d'Accompagner avec François Mercenier. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, commençons par l'Amorce, si vous voulez bien. L'Amorce, vous êtes l'Amorce de quoi et pour qui?
En fait, principalement, on travaille avec les jeunes, mais on travaille sur tout ce genre de situations de décrochage scolaire, social et d'accompagnement de façon générale. Et je vous dirais que nous travaillons sur trois axes, l'individuel, le collectif et le communautaire. Donc on fait aussi bien les accompagnements de famille, raccrochage scolaire, inscription scolaire, tout ce qui pourrait présenter certaines difficultés, je dirais, pour les jeunes.
Donc vous travaillez avec les jeunes, et ces jeunes, vous les trouvez où?
Ben, on fait principalement du travail de rue avec une collègue qui s'appelle Mariam, que je salue au passage. Et donc on assure une présence en rue qui fait que certaines demandes émergent, et donc on peut accompagner ou pas, mais comme nous travaillons sur l'AC, une boxale, le tissu associatif étant tellement large, qu'on est des espèces de personnes relais, dans le sens où on estime que ce n'est plus de nos compétences, bien donc on relaie vers les institutions, les partenaires compétents. Donc.
Et parce que ces jeunes ne vont pas d'eux-mêmes ou n'ont pas de contact avec ces associations, comment ça se fait qu'ils ont besoin de cet intermédiaire?
Il peut arriver que certains soient mal renseignés ou aient besoin d'un, on va appeler ça, coup de pouce pour amorcer, ça s'appelle amorce, pour amorcer certaines démarches pour un projet de vie quelconque en fait.
Voilà. Et donc ils sont dans la rue, ça veut dire qu'ils ne sont pas, qu'ils sont plus à l'école peut-être, ou qu'ils n'ont plus de liens familiaux?
Certains, hein, pas tous, mais même pour des jeunes scolarisés, ils peuvent avoir des problèmes familiaux ou autres. Et je veux dire, la base de notre travail, c'est la discussion et, vulgairement dit, l'analyse de la demande et voir, je me répète, si elle correspond à nos compétences.
Voilà. Donc concrètement, vous marchez dans les rues, dans les quartiers que vous connaissez, et vous abordez les jeunes, vous leur proposez un coup de main.
Oui, tout à fait. Mais je pense que la première démarche, c'est d'être connu, donc c'est d'être présent dans la rue, et puis d'être reconnu pour nos compétences. Et donc, à partir de ce moment-là, on fonctionne le bouche à oreille fonctionne très bien, dans le sens où certains jeunes peuvent dire, tiens, Miguel ou Mariam peuvent faire ça pour moi, demande-lui. On fonctionne comme ça, j'ai envie de vous dire, oui.
Et faire ça, c'est quoi, par exemple? Donnez-nous quelques exemples.
Ben, faire ça, c'est un jeune qui peut dire, voilà, j'ai été exclu d'une école ou j'ai certains problèmes à l'école ou en famille. Est-ce que tu pourrais venir discuter avec mes parents, le proviseur ou un éducateur de l'école avec qui on est en contact très fréquemment pour voir l'évolution du jeune? Si, par exemple, il y a eu cas plus extrême, un contrat disciplinaire ou des choses comme ça. Donc, on suit le jeune de façon extrascolaire, j'ai envie de vous dire, pour qu'il puisse adhérer à la structure scolaire et puis ne pas être en rupture dès qu'il est à l'extérieur. Mmh. C'est principalement ça qu'on fait, oui.
On viendra vers vous tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers François, qui donc travaille à l'association Accompagner. Expliquez-nous, vous accompagnez qui?
Nous accompagnons toute personne qui demande d'être accompagnée pour aller vers des institutions, pour accomplir donc des démarches administratives, des démarches de moyens de subsistance, des démarches au point de vue juridique. Toute personne donc, qui se présente chez nous et qui demande donc un accompagnement, ou bien alors nous accompagnons des personnes, des accompagnements qui nous ont été demandés par des partenaires.
Des partenaires
qui gèrent toute la problématique de la personne, mais qui demandent simplement un accompagnement de cette personne vers un lieu qui est indiqué par ce partenaire.
Donc ça peut être quoi, une association, un CPAS?
Absolument, association, CPAS, maison d'accueil, Croix-Rouge, office des étrangers.
Et donc qui sont ces personnes que vous accompagnez? Donnez-nous des exemples de situations.
Ce sont toutes des personnes qui sont en grande précarité matérielle et en précarité morale. Précarité donc matérielle, absence de moyens de subsistance, recherche de logement, recherche donc de moyens pour obtenir donc les papiers nécessaires à leur intégration ici en Belgique, ou précarité morale, toute personne qui, lorsqu'elle subit un choc émotionnel ou un choc donc, dans sa vie, un deuil, et qui, devant accomplir donc des démarches, se sent incapable de les effectuer.
Et donc vous aussi, vous êtes l'intermédiaire entre des services qui existent et des citoyens qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas en mesure de se débrouiller tout seul.
Exactement. Nous sommes en quelque sorte un relais, un chaînon dans une... C'est-à-dire que nous avons constaté que entre les diverses associations, il y avait un chaînon manquant. Et ce chaînon, c'était l'accompagnement. Parce que les associations sont débordées par le travail et ne pouvaient pas faire de l'accompagnement sur terrain. Et c'est dans cette optique que nous avons créé donc l'association.
Donc ça veut dire concrètement aller avec les personnes pour réaliser une démarche à la maison communale, à l'hôpital, au CPAS.
Absolument.
Parce que ces personnes n'arrivent pas à le faire seules, ces démarches. Et ce sont des personnes d'origine belge ou étrangère, des demandeurs d'asile?
Il y a de tout. Mmh. Il y a des personnes donc de Bruxelles, mais il y a des personnes qui nous viennent de l'étranger, d'Afrique du Nord notamment, d'Afrique centrale ou notamment pour le moment pas mal des pays de l'Est.
Mmh. Je pense que vous ne vous connaissiez pas avant de vous rencontrer il y a quelques jours, mais vous avez un point commun, c'est celui de vouloir ne pas faire les choses à la place des bénéficiaires, à la place des personnes que vous aidez. Pourquoi est-ce qu'il faut faire avec et plutôt que faire pour, Miguel?
Mais je pense qu'à un certain moment dans le parcours du jeune, il faut qu'il se conscientise et se rende autonome. Parce que je ne pense pas qu'on puisse personnellement accompagner une personne toute sa vie, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Et j'en suis persuadé, ils ont les capacités de le faire eux-mêmes, mais je pense qu'à un certain moment, ils ont peut-être besoin de, je me répète à nouveau, un coup de pouce, un accompagnement, un soutien. Ça peut avoir diverses appellations. Et on tente à amener le jeune, personnellement, par l'amorce, à cela, à lui faire prendre conscience de ses capacités et du pouvoir qu'il a sur sa vie, en fait, qui peut des fois être un petit peu occulté par certains problèmes.
Ok, on y revient dans quelques minutes après notre première pause musicale. Je vous propose d'écouter Francis Cabrel et African Tour.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien, je n'en sais rien. On verra bien. Moi je veux bien, sauf que chez moi, la moitié d'un échafaudage.
C'est le temps de l'Avent sur RCF. Bonne préparation de Noël.
Voilà, et pendant ce temps de l'Avent, nous rencontrons donc des associations soutenues par Vivre Ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer donc l'Amorce. On était en train de parler avec Miguel du fait qu'ils ne font pas à la place des jeunes, mais avec eux, donc pour les amener vers l'autonomie. Alors l'autonomie, on en parle beaucoup ces temps-ci, on demande aux gens d'être autonomes, de se prendre en charge, d'être responsables, mais on n'est pas autonome par un coup de baguette magique, ni tout seul, ça prend parfois du temps et ça demande un réseau autour de soi, Miguel.
Tout à fait, mais en fait, je pense que le temps, c'est notre première arme, si je peux m'exprimer ainsi. C'est de pouvoir être sur l'espace public par rapport à notre travail, être à l'écoute et être attentif. Et c'est vraiment... À nouveau, le temps qui fait que la confiance s'installe. On ne peut pas travailler avec, peu importe le public, sans confiance. Et je pense qu'à partir du moment où la confiance est établie, la relation se resserre, et à partir de ce moment-là, on peut leur faire prendre conscience d'une certaine, une certaine partie d'autonomie qu'ils ont en eux et qu'il faut développer, et qui nécessite des fois un petit accompagnement, ou des fois un plus long accompagnement. Et c'est pour ça que je reviens sur le temps, qui est très très important, et effectivement... Actuellement, le temps est compté et je veux dire, c'est un des avantages de travailler à l'Amorce. On a ce temps et on prend ce temps.
Donc l'Amorce peut être longue.
Oui.
Alors l'autonomie, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur à accompagner. Et vous aussi, vous avez le temps, vous prenez le temps. Je vais quand même signaler que vous êtes tous bénévoles, volontaires dans votre association.
Absolument.
Et donc vous avez peut-être plus que les travailleurs sociaux le temps justement d'accompagner et de prendre le temps qu'il faut.
Oui. Nous sommes à peu près une 30 à 35 bénévoles, mais nous sommes donc encadrés par, par des professionnels, une assistante sociale et un assistant administratif. Et lorsque la demande est effectuée, l'assistante sociale établit un ordre de mission, après avoir donc reçu donc, le bénéficiaire, et elle demande à un bénévole s'il peut accompagner telle ou telle personne dans le bureau qui a été donc désigné. Cette mission se déroule suivant donc l'ordre de mission qui a été établi et le bénévole ne peut pas continuer après la mission une relation personnelle avec le bénéficiaire parce qu'on ne veut pas établir une nouvelle dépendance du bénéficiaire vis-à-vis donc du bénévole. Après donc la mission, le bénévole doit remettre un rapport à l'assistante sociale qui elle-même verra ce qui a été exécuté et ce qu'il faut encore faire pour aider donc, la personne qui était en demande.
Et donc quel type de démarche avez-vous, vous, le temps de faire que d'autres n'ont pas le temps de faire? Donnez-nous des exemples.
Par exemple, des visites médicales, des visites au BAJ, donc le bureau d'aide juridique, à l'Office des étrangers, des visites pour trouver donc, des écoles pour des enfants.
Donc voilà. Ce sont des choses qui, où il faut faire la file, il faut attendre, il faut parfois revenir le lendemain. Et c'est clair
bien sûr, les visites au CPAS. Alors quand il y a un rendez-vous qui est fixé, la mission peut être relativement courte, c'est-à-dire une heure ou deux, mais parfois, comme vous disiez, il faut faire la file. Et il nous est déjà arrivé d'avoir fait la file toute la matinée, et puis le bureau se ferme, il faut revenir une autre fois. Mmh. C'est pour ça que... on prend le temps, disons, d'effectuer ces missions-là.
Mmh. Et comment ça se concrétise ? Vous parlez à la place de la personne ? Vous faites la démarche pour elle ?
Non. Je ne dirais pas qu'on est à côté de la personne, on est même plutôt en retrait de cette personne. On la pousse, on l'aide à exprimer elle-même sa ou ses demandes. Mais on est là pour voir si elle a bien compris les réponses qui lui ont été données et pour voir aussi si elle ose demander ce qu'elle voudrait obtenir. Et dans ce cas, si on voit que la personne n'ose pas, alors on intervient. Mmh. Et lors de la réception donc, des renseignements reçus, on lui fait répéter, les réponses qui lui ont été données pour voir si elle a vraiment bien compris ce qu'elle demandait.
Et le fait que vous soyez avec les personnes, vous sentez que parfois ça facilite certains contacts, certaines démarches ?
Ah, nous sommes des facilitateurs, ça c'est sûr. Et même au point de vue des organisations sociales, que ce soit le CPS ou d'autres organisations, ils sont contents de nous avoir parce qu'ils peuvent avoir une personne qui peut aider justement la personne en demande.
Finalement, vous prenez beaucoup de temps, mais vous permettez à d'autres de gagner du temps dans leur démarche.
Absolument, ouais. Absolument.
À la fois les bénéficiaires et puis les travailleurs sociaux également.
Oui, absolument, absolument ça. Et ils nous en sont d'ailleurs très reconnaissants.
Mmh. Miguel, l'accompagnement que vous proposez aux jeunes donc, que vous rencontrez dans la rue, est-ce que c'est un accompagnement, comme vous dites, un coup de pouce et puis le jeune se débrouille? Ou est-ce que ça peut prendre du temps? Est-ce que vous gardez des contacts avec ces jeunes par la suite quand ils ont pris leur autonomie?
Mais le contact est permanent dans le sens où majoritairement on les voit sur l'espace public, donc on peut prendre des nouvelles à tout moment de l'évolution d'une situation. Et je pense que même après, on va dire, certains petits problèmes qui auraient été arrangés ou aplanis, je pense que le fait de garder contact avec eux de manière professionnelle, j'ai envie de vous dire.
Même chose, il n'y a pas de relation plus personnelle avec les jeunes, ça reste une relation professionnelle.
Là, je pense que ça dépend de chacun de voir jusque émotionnellement jusqu'où on s'implique, mais on tente à professionnaliser ça. Mais je pense que d'être à leur contact même, c'est un petit peu, j'ai envie de faire un parallèle avec l'école, c'est de féliciter l'enfant quand ça va bien aussi, et ne pas relever que le négatif. Donc c'est la même chose à partir du moment où certains jeunes nous disent « Ah tiens, telle et telle chose se sont arrangées », mais voilà, c'est agréable pour nous d'entendre que les choses évoluent favorablement et positivement. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour les jeunes que vous rencontrez dans la rue? Qu'est-ce qui leur pèse le plus dans leur situation?
On entend beaucoup parler de la précarité de façon très large, c'est-à-dire financière, au niveau du logement, l'emploi. Et là, effectivement, on arrive dans le tissu associatif de l'AECN, qui est très très large.
Oui, okay. Oui. On y revient après une deuxième pause musicale et Kadjanine Yapili.
Bonne entrée en avant sur RCF.
Do I do need
François Mercenier, on revient vers vous donc, pour l'association Accompagner. L'accompagnement se fait sur le terrain, mais il se fait aussi d'une façon plus spirituelle. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
Oui, des personnes qui ne peuvent plus participer à un accompagnement sur le terrain, soit parce qu'elles sont malades, soit parce qu'elles sont trop âgées, ont demandé à participer quand même à la vie donc, d'accompagner. Et lorsqu'une mission est programmée, l'assistante sociale téléphone à une ou à un volontaire donc, spirituel d'être en communion spirituellement avec la démarche qui est effectuée tel jour et telle heure.
Voilà, une façon originale d'accompagner voilà. Également. Miguel, votre association va recevoir donc un soutien financier de Vivre Ensemble à l'occasion de cette campagne. Qu'est-ce que ça va permettre de faire chez vous ?
Le projet, concrètement, c'est de faire des ateliers d'expression au sens large, c'est-à-dire les laisser s'exprimer par leur... Par tous les moyens possibles et imaginables, c'est-à-dire le rap, le slam, la musique, le théâtre, et donc l'achat de matériel, d'intervenants, les locaux, ce sera le bienvenu, oui.
Et à nouveau, ça permet de mettre en valeur leur côté positif et leur talent, plutôt que de toujours les centrer sur leurs échecs, j'imagine.
Oui, parce que même des personnes qui ne seraient, entre guillemets, pas accompagnées par Mariam et moi-même, ont des choses à dire de leur quotidien, de leur vécu. Et donc je pense que c'est peut-être plus facile que de l'exprimer comme ça lors d'un entretien individuel. Mmh. Et plus agréable aussi. Ouais.
Et cette collaboration avec Vivre Ensemble ne se limite pas à l'argent, puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer les autres associations de Bruxelles et du Brabant Wallon qui ont été soutenues. C'était la première fois que vous participiez à ce type de rencontre ?
Oui, tout à fait. Oui. J'étais très étonné de la diversité, mais qui en fait ça nous rassemble sur les objectifs et les missions qu'on essaye d'atteindre, la précarité et le vivre ensemble. Oui,
ça vous donne de l'énergie ?
Oui.
Hein. Il en faut, j'imagine.
Il en faut, oui.
Alors du côté d'accompagner, cet argent va vous permettre de faire quoi ?
Sur un budget de fonctionnement, nous ne pouvons pas objectivement vous dire que l'argent que nous allons recevoir serviront précisément à l'achat de café, biscuits, cartes métro, etc. Mais l'argent reçu financera 1/20 de notre service d'accompagnement de terrain en faveur des plus démunis.
Parce que tout ça, évidemment, ça a un coût. Il faut des locaux, il faut des ordinateurs. Voilà. Et je Exactement. Rappelle que vous êtes tous volontaires dans cette association. Oui. Voilà, on arrive tout doucement déjà au terme de cette émission. Pour plus d'informations... Rappelez-vous que nous avons un site internet qui va très bientôt être renouvelé et sera flambant neuf, qui s'appelle www.vivre-ensemble.be. N'oubliez pas d'être solidaire durant cet Avent, les collectes de l'Avent les 10 et 11 décembre, et puis vous pouvez aussi participer via le numéro de compte que vous trouverez sur notre site. Et puis n'hésitez pas à vous informer sur toutes ces associations. Je vous rappelle qu'il y en a 88 pour cette campagne 2011 qui est centrée sur le thème des enfants. Et bien voilà, vous pouvez aller à leur rencontre, vous allez les rencontrer peut-être dans votre paroisse ou dans une animation. Rendez-vous également sur notre site, sur notre agenda pour toutes ces informations. Voilà, Miguel, un grand merci d'être venu jusqu'à nous.
C'est moi qui vous
remercie. Et bonne continuation de votre travail.
Merci.
François également, merci et à très bientôt peut-être.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous également, chers auditeurs, et à bientôt sur RCF.